Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous.
Ma perception des choses, c'est que 99% des antispécistes sont écolos, mais l'inverse n'est pas vrai. Refuser d'ingérer des animaux, c'est un geste politique. C'est une revendication politique qui s'exprime trois fois par jour, le matin au petit-déj, le midi au déj et le soir au dîner, et qui provoque de la discussion. C'est éminemment politique.
Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuche. Et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Je pense que vous le savez, dans ce podcast, j'essaye à la fois de vulgariser les recherches autour du spécisme et de replacer ces réflexions dans le paysage plus général des enjeux contemporains et des autres luttes sociales notamment. Et il y a une lutte avec laquelle le dialogue n'a pas toujours été facile. Et ne l'est d'ailleurs toujours pas. C'est la lutte écologiste. C'est compliqué, je pense, parce que antispécisme et écologisme sont perçus comme des mouvements très proches, parlent en partie des mêmes sujets, mais en fait pas toujours de la même manière, ni avec les mêmes prismes d'analyse. Je suis convaincu que les deux ont beaucoup à s'apporter, et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Mais ça demande parfois d'avoir des discussions honnêtes et un peu critiques. C'est le cas de cet épisode, qui, vous allez l'entendre, n'est pas toujours tendre avec la sphère écolo. Mais pour les écolos qui écoutent, sachez que je le dis avec amour, mais vous dites parfois des grosses dingueries spécistes, et c'est important qu'on en parle. Je sais qu'avec mon invité, on a tous les deux la volonté d'ouvrir plus d'espace de dialogue fructueux et bienveillant sur les rapports entre les deux mouvements. Et il est particulièrement bien placé pour réfléchir à ça, puisque c'est à la fois un militant écologiste, de longue date, et un militant antispéciste. C'est Jean-Marc Gancille, qui a notamment cofondé le tiers-lieu Darwin à Bordeaux, et qui travaille désormais dans la conservation de la nature au sein de l'association Globis à La Réunion. C'est aussi l'auteur des ouvrages Ne plus mentir, Carnage, et tout dernièrement Comment l'humanité se viande, aux éditions Rue de l'Échiquier. Et c'est pour parler de ce dernier ouvrage que je le reçois. Bonjour Jean-Marc Gancille.
Salut Victor.
Alors j'ai le plaisir de vous recevoir pour la sortie de votre ouvrage « Comment l'humanité se viande, le véritable impact de l'alimentation carnée » aux éditions Rue de l'Échiquier, dans lequel vous vous attaquez à ce que vous décrivez comme un angle mort de la pensée écologiste, l'alimentation carnée, c'est-à-dire l'élevage et la pêche, c'est-à-dire le commerce des corps d'innombrables animaux morts pour la consommation humaine. Voilà, disons les choses. En général, ce à quoi on pense en premier et le plus souvent, c'est la question climatique. En fait, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et là, on a tendance à sous-estimer la part réelle que représente l'alimentation carnée dans ces émissions, alors que c'est vraiment beaucoup, en fait.
Oui, c'est colossal. C'est colossal et j'ai voulu montrer que c'était aussi pas unique. C'est-à-dire qu'il y a de multiples impacts liés à la consommation d'animaux. Ils sont bien sûr climatiques, mais ils sont aussi très significatifs sur l'effondrement de la biodiversité, sur les pollutions de l'air et des milieux, sur le développement de maladies zoonotiques, je dirais même la sécurité alimentaire. Donc l'élevage et la pêche, au-delà du nombre innombrable de victimes qu'ils génèrent, est aussi une menace majeure sur la santé des écosystèmes et sur la santé humaine. Et évidemment sur la faune sauvage qui habite ces écosystèmes. Donc on a une multiplicité d'impacts, d'externalités négatives que généralement le grand public a peine à considérer à leur juste mesure. On a généralement une vision assez limitée de ces impacts et l'enjeu de cet ouvrage, c'est justement de les décrire, de les documenter, d'en préciser les effets et de montrer que c'est tout simplement insoutenable pour garantir les conditions d'habitabilité de cette planète.
Oui, vous faites un tour d'horizon parfait en fait de tous les impacts et ils sont vraiment multiples. Et si on a, pour mettre un peu quelques ordres de grandeur pour qu'on soit d'accord sur le constat de l'impact, par exemple, c'est quoi les ordres de grandeur des émissions de gaz à effet de serre que représentent l'élevage et la pêche parmi ces émissions?
Alors, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des éléments disparates, des méthodes de calcul qui peuvent aussi diverger selon leurs émetteurs. Il y a également des considérations qui sont liées au local ou au mondial, à des pays en particulier, et des modes d'élevage qui diffèrent. Ce qui est aussi important de considérer, c'est que ces impacts sont pas les mêmes en fonction qu'on a affaire à un élevage intensif ou à un élevage extensif, paysan, ou à des pâturages, et selon le type d'animaux que ça va concerner, des monogastriques ou des ruminants, et des poissons ou on va dire des animaux terrestres, on va avoir des choses très différentes à considérer. Ce dont on parle généralement quand on parle d'impact climatique, puisque c'était la question, on parle beaucoup des bovins et notamment des ruminants, puisque la fermentation entérique qui est liée à leur système digestif va générer énormément de méthane, mais ils vont aussi produire des excréments qui vont générer une autre forme de gaz, qui est le protoxyde d'azote, qui est aussi très impactant pour le climat parce qu'il y a un pouvoir de réchauffement 300 fois supérieur au CO2 sur une période assez courte. Donc on a une multiplicité de gaz qui vont agir sur le réchauffement global, et l'estimation de ce réchauffement, il est lié à voilà, plusieurs méthodes de calcul. Globalement, ce sur quoi la plupart des instituts de calcul ou des organisations s'accordent, c'est sur une valeur de l'ordre de 14,5, c'est-à-dire que l'élevage au niveau mondial représente 14,5% des émissions mondiales, ce qui en fait l'un des postes d'émissions les plus forts, en tout cas au niveau mondial, et sur lesquels on peut surtout agir assez facilement.
C'est ça. En plus, si on rappelle que en fait c'est complètement dispensable, on peut faire sans.
C'est complètement dispensable, ça je crois qu'on sera tous d'accord, les auditoristes qui écoutent ce podcast savent que la consommation de protéines carnées n'est nullement indispensable à notre santé et à notre bien-être. On pourrait du jour au lendemain décider de stopper ces émissions, et ça serait d'autant plus efficace que le méthane et le protoxyde d'azote ont des temps de durée de rayonnement fort dans l'atmosphère pendant une durée assez courte, mais avec un impact très 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 élevé. C'est-à-dire que le méthane sur 25 ans est 80 fois plus impactant que le CO2, le protoxyde d'azote je crois c'est 257 fois. Donc si on stoppait du jour au lendemain, cette expérience de pensée bien sûr est un peu utopique, mais si on stoppait du jour au lendemain, ça serait 547 gigatonnes de CO2 qui serait économisé, on aurait déjà atteint 50% de l'effort à effectuer pour atteindre les fameux 1,5, la limite des 1,5 degrés de réchauffement qu'il ne faudrait pas dépasser selon l'accord de Paris. Donc on peut faire la différence, ne serait-ce qu'en arrêtant de manger des animaux, et après ça permettrait justement d'atténuer l'impact de ce réchauffement et de s'organiser pour y faire face.
Oui, s'il faut commencer quelque part, autant commencer par là, ça a un impact rapide et assez efficace.
Absolument, alors que c'est ce que je décris aussi dans le bouquin, et sans le spoiler, s'extraire du système thermo-industriel dans lequel nous sommes tous englués. Aujourd'hui, par exemple, tu m'enregistres avec des micros, on s'est déplacé en transport en commun, tout ça consomme de l'énergie, on s'est nourri, et ainsi de suite. Donc, on pourrait évidemment plus facilement cesser toute consommation carnée que refuser, tout ce qui aujourd'hui nous aide à nous insérer dans cette société et dont nous sommes très dépendants tout simplement pour en faire partie. Voilà. Alors que changer son alimentation, ça n'a aucun impact sur notre socialisation, sur notre joie de vivre, sur notre bonheur, bien au contraire.
Et vous l'avez dit, et c'est vraiment important de le rappeler, c'est pas qu'une question de réchauffement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre. Notamment, il y a une crise écologique qui a toujours moins de place dans les discours, mais qui est non moins importante, c'est la crise de la biodiversité. Et elle aussi, sur elle aussi, finalement, l'élevage et la pêche ont à nouveau un impact démesuré. Comment ça fonctionne, cet impact de l'élevage et de la pêche sur la crise de la biodiversité ?
C'est un impact absolument majeur, d'une part parce que les poissons sauvages qu'on capture, tout simplement, sont les occupants des océans et qu'on est en train de les vider. Et qu'ils participent au bon état de santé de ces écosystèmes, évidemment, et à leur fonctionnalité. En vidant les océans, et on le fait à une vitesse extrêmement rapide, eh bien, on va rompre ces équilibres-là et on va mettre en danger tous les occupants de ces milieux et nous-mêmes qui en dépendons. Et puis, tout simplement parce que, et on a du mal à le mesurer une fois de plus, c'est que l'extension de l'élevage, et notamment l'élevage extensif, qui est la norme pour les bovins, occupe une place démesurée qui se substitue aux espaces sauvages. Donc aujourd'hui, l'élevage sur la planète et sur les terres émergées représente 30% de la surface, à la fois par les pâturages et par les cultures nécessaires à l'alimentation du bétail. C'est colossal. En gros, c'est toutes les Amériques. tout le continent américain, sud,
un continent
entier, sud, nord et Amérique latine, ne pourrait être occupé que par des bêtes si on les regroupait là, avec les cultures dont elles ont besoin pour se nourrir. C'est absolument gigantesque.
Et c'est 77%, vous dites, des terres agricoles.
C'est ça, 77% ouais. des terres agricoles sont accaparées pour le bétail et son alimentation. C'est quelque chose qui est fou et qui, du coup, est un gaspillage de ressources phénoménales, d'autant plus qu'on sait qu'on pourrait s'en passer. Et faire pousser des cultures qui nous sont directement nécessaires, comestibles pour les humains, et qui permettraient de nourrir très largement, si ce n'est le double de la population actuelle, en tout cas jusqu'à 10 à 12 milliards d'êtres humains sans difficulté.
Ouais, je crois que c'est hyper important de le marteler, c'est purement et simplement un énorme gaspillage de ressources,
l'élevage et la pêche. C'est un énorme gaspillage de ressources, souvent on va dire les défenseurs de l'élevage ont essayé de prouver que l'élevage était un contributeur net de protéines. En fait, c'est faux. Les ruminants comme les monogastriques vont avoir besoin, alors les chiffres diffèrent, mais en gros de 2 à 4 protéines végétales pour produire une protéine animale. Mmh. Et donc là je parle de protéines comestibles en plus. Ouais. Donc pour l'homme, donc
on a moins de protéines à la sortie qu'on en a donné
absolument.
À l'entrée.
Absolument, et il y a énormément de fuites, je dirais, dans le système avec des effluents azotés qui vont pourrir les milieux, si j'ose dire.
En plus d'avoir à utiliser un individu sentient qui voulait vivre comme véhicule intermédiaire pour transformer de l'énergie où il n'y a que des pertes. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens.
C'est absolument absurde. On est en absurdité totale. Et moi, j'aime bien ce chiffre qui est quand même extrêmement parlant par rapport à la biodiversité. Alors qu'on nous rabâche sans cesse que l'élevage paysan est favorable à la biodiversité, on pourra y revenir, c'est une fable, en tout état de cause. Aujourd'hui, les humains et le bétail qu'ils ont généré pour leur alimentation dispensable représentent 96% de la biomasse des mammifères terrestres de la planète. C'est quelque chose de fou. Les animaux sauvages, ce n'est plus que 4% de cette biomasse. Pour ce qui est des oiseaux, la volaille, comme on dit, c'est-à-dire malheureusement ces oiseaux qu'on mange, représentent quasiment 3/4 des oiseaux du monde entier. Donc on est sur des chiffres qui sont hallucinants et qui montrent bien à quel point on s'est accaparé ces espaces au détriment de toutes les autres espèces. Et c'est là où l'impact sur la biodiversité est majeur.
On va pas rentrer dans le détail de toutes les formes d'impact de cette alimentation carnée. Vous le faites extrêmement bien dans le livre et on renvoie les auditeuristes vers le livre. Mais pour finir le tableau rapidement, il y a aussi des problèmes de pollution des sols et des eaux, de dégradation des sols, de risques pour la santé. Enfin voilà, ça continue comme ça.
Absolument. Effectivement, on va pas tous les énumérer. Je pense qu'on les a tous plus ou moins en tête. Ce qu'on n'a pas toujours en tête, c'est les ordres de grandeur. C'est vraiment majeur, ce qui fait dire notamment à l'un des personnes qui m'ont inspiré pour l'écriture de cet ouvrage, que aujourd'hui, pour faire face, je dirais, aux défis et à l'urgence écologique, il y a deux choses à faire. Certes, laisser un maximum d'hydrocarbures dans le sol, ça on l'entend beaucoup dire par les militants écolos, mais ce qu'ils devraient dire également, c'est arrêter de manger des animaux.
C'est qui dit ça du coup?
Georges Monbiot,
ah oui.
Je l'avais pas cité. Georges Monbiot, qui est effectivement quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aux démarches de l'écriture de cet ouvrage.
Vous pouvez nous dire un peu qui c'est, parce qu'il représente quelque chose. Autant en France, on a du mal à faire émerger ce sujet, autant il y a une figure à l'étranger, en Angleterre en fait, qui arrive à porter ce sujet, à le mettre sur la table et à dire, bah oui, il faut parler de l'alimentation carnée, c'est super important.
Exact. Il en a même fait son cheval de bataille avec un dernier ouvrage qui s'appelle Nourrir le monde, pardon, sans détruire la planète. Que j'ai lu il y a un certain temps et qui est remarquable. Et justement, il fait état des constats dont on a parlé en introduction. Et lui plaide effectivement pour déconstruire le mythe selon lequel l'agriculture nous permet de vivre en harmonie avec la nature. Alors quand je dis agriculture, c'est élevage, relation avec les animaux, toute cette mythologie qu'on nous fait croire depuis des décennies, voire des siècles, qui nous connecterait à la nature. Voilà, mais qui en fait la ravage. C'est une figure effectivement assez charismatique, qui a une certaine aura en Angleterre, où il travaille, notamment au Guardian. C'est un militant écologiste, mais c'est aussi un journaliste d'investigation. Et il a mené de nombreuses enquêtes sur le sujet, et aujourd'hui il est un des porte-parole, je dirais, de cette nécessité de bouleverser nos pratiques alimentaires, notamment au regard des dégâts qu'elles occasionnent, mais aussi en valorisant des alternatives qui pourraient définir une nouvelle façon de se nourrir, et qui, à mes yeux, sont enthousiasmantes, mais qui, aujourd'hui, sont souvent diabolisées par les tenants d'une agriculture, on va dire, traditionnelle. Mmh.
Bon, alors maintenant qu'on est bien au clair sur cet impact absolument gigantesque, la question c'est justement, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus ? Pourquoi ça continue d'être un point aveugle total pour beaucoup de personnes parmi les forces progressistes et y compris parmi beaucoup d'écologistes qui sont souvent dans une forme de défense en fait de l'élevage.
Absolument. Ça peut être un mystère, effectivement, lorsqu'on prend conscience de ces impacts, et les écologistes les connaissent, bien qu'ils s'en défendent parfois. C'est vraiment un mystère de voir qu'ils ne sautent pas le pas d'actions volontaristes et fortes sur ce sujet-là. C'est lié à tout un tas de choses et à des sujets que tu as souvent développés dans ton podcast, et notamment cette idée de nature. Qui amalgame tout un tas de choses, qui fait référence à un ordre naturel qui serait immuable, dans lequel on s'insérerait, qui considère les écosystèmes comme des grandes masses, un peu qui nient, on va dire, les spécificités des êtres vivants qui les composent, et qui, on va dire, confond souvent nature et tradition. Donc il y a aussi une vision un peu nostalgique, un peu passéiste d'un ordre qui aurait été équilibré, qui est une nature qui aurait été bienveillante et parfaite, dès lors qu'on n'y aurait pas trop touché, et qui est encore prédominante, cette vision, dans l'imaginaire collectif, dans l'opinion populaire et chez un nombre important d'écologistes qui continuent de valoriser des pratiques qui pourtant, scientifiquement, ne sont plus soutenables. Donc effectivement, c'est encore très prégnant dans ces modes de pensée-là, et on a des difficultés à effectivement faire changer le regard parce qu'elles sont sans cesse convoquées, notamment par l'industrie qui veut faire perdurer le statu quo, ouais, et qui use et abuse de ces images bucoliques de vaches dans les prés, qui invisibilisent les pratiques les plus cruelles d'élevage au profit, je dirais, d'images sépia qui rappellent un passé fantasmé où on aurait vécu en pleine harmonie avec ses bêtes dans une ferme idéalisée, quoi.
Mais ce qui est frustrant, c'est que ça vient pas que des industries. Ça, on s'y attendrait. On sait, ils font leur travail de lobby. Ils ont des choses à vendre et ils ont besoin de nous vendre cette image d'Épinal. Mais ça vient aussi de nos alliés, de personnes qui se battent contre ces industries-là, qui sont contre l'élevage intensif. Je pense à la Confédération paysanne, par exemple, qui continue à être dans un discours de défense intransigeante de l'élevage, alors même que il faut aller vers la réduction de l'élevage, de toutes les formes d'élevage, comme vous l'expliquez très bien dans votre livre.
Absolument, et c'est un sujet avec lequel j'ai souvent maille avec les représentants de notamment de la Confédération paysanne sur les réseaux sociaux ou en physique. On a des débats souvent très houleux là-dessus, mais c'est vrai aussi avec les petits pêcheurs artisanaux, oui, qui défendent une pêche durable. Je pense à Charles Brenne, par exemple, avec qui je me suis souvent pris le bec, parce qu'il y a une forme de déni des dégâts que représentent ces formes d'élevage. J'aimerais quand même rappeler, parce que c'est pas clair pour tout le monde, que l'élevage sur pâturage et la transformation, on va dire, de l'herbe en viande, c'est un coût gigantesque. C'est comme transformer du charbon en énergie. Les émissions sont colossales et l'espace nécessaire, comme on l'a dit tout à l'heure, lui aussi est gigantesque. Et tout ça, ça a vraiment ça fait des dégâts incommensurables. Mais c'est nié. Il y a vraiment un déni de ça.
Oui, il y a cette idée que si on revient à que des élevages extensifs et qu'on arrête l'élevage industriel, là, ce sera bon niveau écologique.
Absolument, il y a un déni de l'espace que ça mobilise.
Par protéines produites, là, c'est un des cas où, en fait, en extensif, ça pollue plus.
Oui, oui. Donc, il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle qui vise à légitimer, selon tout un tas de procédés rhétoriques.
On nous dit, par exemple, qu'il y a de la captation, que ça permet la captation de carbone
typiquement,
dans les pâturages.
Typiquement, le stockage du carbone dans les prairies est systématiquement invoqué pour justifier l'élevage sur pâturage. Or, une unité de carbone stockée dans le sol, c'est 4 unités de carbone émises par les ruminants qui sont sur ces sols.
C'est-à-dire que ça compense pas du tout le méthane qui est roté par les vaches.
Les vaches sont émettrices nettes et de très loin de carbone.
Même une fois qu'on prend ça en compte, dans les quelques cas où ça peut effectivement stocker du carbone.
Il y a des cas où une prairie bien gérée, un élevage bien géré, dans des dimensions acceptables, peut stocker du carbone. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, l'ensemble des prairies pâturées sont devenues source de carbone et non plus puits de carbone.
Émettrices donc.
Elles sont émettrices, voilà. Elles émettent du carbone parce qu'elles ont été surpâturées, parce que le nombre de bêtes qui pâturent est colossal et il nous faudrait jusqu'à 2000% selon certaines études de prairies en plus pour pouvoir stocker tout ce méthane émis par les bovins. Donc on n'y est pas du tout et cet argument est fallacieux et ne peut absolument pas tenir lieu de justification à l'élevage paysan.
Ouais, et puis le fait que du coup certains écolos et notamment une institution aussi importante au sein des mouvements écologistes comme la Confédération paysanne s'accrochent à la défense des petits élevages, de l'élevage paysan, j'ai l'impression que ça empêche finalement de se battre réellement, d'avoir un discours clair et radical contre l'élevage en général et sur la question de l'alimentation carnée. Et c'est hyper bien montré, par exemple, c'est un sujet qui est sous-représenté dans les médias. Par rapport à sa contribution réelle, il y a un super rapport qui avait été produit par un média qui se penche très explicitement sur ces questions en anglais et auquel a contribué, il me semble, Georges Monbiot, Sentient Media et une autre institution, Phonalytics, qui ont analysé le traitement médiatique de la crise climatique et ils ont montré que, alors que voilà, les chiffres de les ordres de grandeur, c'était entre 14,5 et 20% des sources des gaz à effet de serre, en fait, il y a seulement 7% des articles qu'ils ont étudiés dans un panel représentatif des médias majoritaires qui mentionnaient l'élevage et la pêche. Et quand il le mentionnait, c'était pour parler en fait de l'impact négatif du réchauffement climatique sur l'élevage et la pêche, plutôt que de parler de l'élevage et la pêche comme une des causes majeures du réchauffement climatique. Donc en fait, ils n'en parlaient même pas.
C'est complètement fou. C'est un rapport que je cite effectivement dans mon ouvrage. J'ai trouvé ça aussi confondant. C'est-à-dire que malgré tout, l'accumulation des preuves sourcées, des rapports scientifiques, des études, ce sujet n'émerge pas parce qu'il est volontairement, on va dire, combattu par un certain nombre d'organisations influentes, de lobbies, qui on va dire, ont des moyens colossaux pour imposer leur vision du monde. Ils infiltrent effectivement les universités. Il y a aussi des études qui sont parues sur ce sujet récemment pour montrer à quel point l'industrie de la viande et la filière en général instillait du doute, du mensonge, corrompait des scientifiques pour diffuser une vision positive de leur activité. On a aussi des agriculteurs qui ont été assez médiatisés, comme Alan Savory avec son agriculture régénératrice qui plaide en faveur de l'élevage extensif comme étant une solution à nos problèmes de réchauffement. Il a été débunké des centaines de fois.
Ça, c'est rien un bon fait. Moyen, proposer des fausses solutions.
Voilà, rien n'y fait. Généralement, la Confédération paysanne ou d'autres renvoie systématiquement sur ces travaux qui pourtant n'ont pas de fondement scientifique. Donc, il y a une vraie volonté de nier, d'invisibiliser l'avancée scientifique, les connaissances sur ces sujets-là, pour faire perdurer un système le plus longtemps possible, quand bien même il craque de partout.
Ouais, puis des fois c'est juste un impensé chez les écolos. Vous dites, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant quand vous dites, on parle tout le temps de génération climat, mais jamais de génération végane. Et c'est hyper révélateur en fait.
Mais complètement. D'ailleurs, je cite Greta Thunberg. Greta Thunberg, elle est cohérente.
Oui. Elle lutte. Elle est végane et elle a un discours hyper clair sur la question.
Hyper clair, mais il est très rarement relayé par les médias.
Effectivement.
On parle de, c'est l'égérie de la génération climat. Ça pourrait être celle de la génération végane, mais ça, on n'en parle jamais.
Ouais. Et alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de ce point aveugle. À quel niveau exactement vous identifiez que c'est un point aveugle? Est-ce que c'est à tous les niveaux ou est-ce qu'il y a quand même des niveaux où ça l'est plus? Est-ce que c'est le monde militant, écolo et aussi le monde associatif? Parce que j'ai l'impression que côté asso, ils font quand même de plus en plus pour avoir un discours clair et des recherches qui vont vers la réduction. Est-ce que c'est le monde politique? Est-ce que c'est le monde médiatique? Là, on l'a vu qu'effectivement, c'est sous-représenté et pas bien traité comme sujet. Est-ce que c'est une question des figures, des représentants de l'écologie?
Le monde politique est très hermétique à ces sujets-là, et plus on va dans le spectre vers la droite, plus il l'est, évidemment, mais on constate qu'il y a beaucoup de résistance également à gauche, même si on peut se satisfaire, notamment lors de la dernière campagne présidentielle, d'une certaine forme de prise de conscience chez LFI sur ces sujets-là, avec un discours presque antispéciste de Mélenchon, alors peut-être qu'il était très opportuniste, mais en tout cas, il a été évoqué, et à grande échelle. Donc il y a quand même des choses...
Ça avait un impact dans le programme.
Ça avait des
le fait que la révolution écologique pour le vivant, un parti d'écologie radicale et antispéciste, soit intégré finalement dans la France insoumise,
absolument.
Pas exactement intégré,
oui,
mais
avec un discours
associé.
Aussi au niveau national de Mélenchon sur ce sujet-là, la dénonciation évidemment des élevages intensifs, mais un discours plus général sur la façon dont on exploitait les animaux et que j'ai trouvé très en rupture par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'entendre, et surtout pas de l'autre côté du spectre politique. Donc il y a quand même des éléments qui bougent un peu. C'est quand même très timide parce que, comme je disais tout à l'heure, quitte à enfoncer une porte ouverte, il y a effectivement énormément d'influence et de lobbying auprès de ces cibles-là. Et puis, bien entendu, une acceptabilité du public qui est très faible encore de l'opinion. Et donc, pour toute formation politique qui prétend accéder au pouvoir,
c'est
absolument pas vendeur. Voire même, ça génère de la réactance. Oui. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Europe Écologie Les Verts a tant de difficultés à s'en saisir et à le porter quand bien même certains de ces élus sont très ambivalents sur le sujet. On a parmi Europe Écologie Les Verts certains élus qui sont végétariens. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup de véganes encore.
Mais... Il y a quelques véganes et antispécistes à ma connaissance.
Ouais, mais c'est vraiment la portion congrue.
Tant bien que mal voilà. De tirer la couverture.
Au sein de la condition, la commission conditions animales, ils font bouger quelques lignes. On pourra parler notamment de leur dernière résolution, je sais pas comment ils la nomment, mais qui reconnaît la sentience. Mais pour autant, ça n'a pas d'impact concret sur le programme. Et on a vu lors du dernier salon de l'agriculture, Martine Tondelier qui allait...
Marine Tondelier.
Marine, pardon. Taper le cul des vaches, comme on dit vulgairement dans ce contexte-là, et valoriser une fois de plus le petit élevage paysan. Il faut dire qu'au sein de LV, il y a aussi des personnalités influentes comme Benoît Biteau, éleveur lui-même, député européen, et qui n'a de cesse de valoriser cette activité comme étant contributrice à la biodiversité, génératrice de bien-être animal, enfin des choses qui, moi, me paraissent loufoques, mais qui ont une influence, parce que c'est une personnalité forte au sein de cette institution et de cette organisation. Donc il y a aussi des cheminements individuels qui se font, mais on va dire lentement.
Vous parlez d'un cas vraiment emblématique, je trouve, et que j'ai trouvé vraiment très intéressant. C'est les luttes contre les mégabassines qui ont eu lieu à Sainte-Soline il y a un an, en mars 2023. Et vous rappelez en fait que ces retenues d'eau avaient pour principal objectif d'alimenter des cultures de maïs qui sont très demandeuses en eau, et ce maïs sert en grande partie à l'élevage. Mais en fait, dans la façon dont le sujet a été traité, on allait rarement jusqu'à cette implication.
Jamais. Hugo Clément en a parlé sur France Inter et rappelait effectivement que les mégabassines avaient notamment et principalement pour enjeu d'irriguer ces cultures de maïs destinées à l'élevage.
Il y avait un article de Basta qui en avait parlé. Il me semble qu'Aurélie Trouvé en avait parlé à l'Assemblée, mais... Au-delà
en tout
de ça,
cas, au niveau du grand public,
ça faisait
du
pas
mal
partie
à infuser.
Du discours majoritaire. Absolument autour pas. De la lutte à Sainte-Soline.
Et non, parce qu'on retombe dans ces contradictions, dans ces ambivalences, dans ces ambiguïtés, dans cette hypocrisie même, des milieux écologistes qui ne prennent pas à bras le corps cet enjeu-là pour des raisons multiples dont on vient de parler et qu'on a du mal à lever. Voilà.
C'est super intéressant, je trouve, parce que ça montre comment les biais spécistes généraux absolument hégémoniques dans notre société entraînent souvent une analyse un peu tronquée en fait, qui remonte pas à une partie importante des causes des crises écologiques et qui du coup fait pas l'analyse complète de justement la question de l'eau. C'est pas juste les pénuries d'eau, elles sortent pas de nulle part.
Tout à fait.
Elles sont notamment beaucoup dues à l'élevage, au fait qu'on perd énormément de cultures juste pour nourrir les animaux, pour avoir moins de protéines après avec ça.
Absolument. Ben, on n'a pas parlé tout à l'heure au niveau des impacts écologiques de l'élevage, des questions liées à la ressource hydrique et à la consommation d'eau considérable.
Et oui, c'est un enjeu aussi.
Et c'est un enjeu majeur, d'autant plus que le nombre de têtes de bétail au niveau mondial augmente et parfois dans des régions qui sont déjà sous stress hydrique. Donc c'est un enjeu absolument colossal qui est là aussi peu considéré, en tout cas pas à sa juste mesure.
Ouais. Du coup, oui, ça tronque les analyses et du coup, ça tronque aussi les solutions qui sont.
Oui,
sont
si le diagnostic de départ n'est pas le bon. Voilà, on le prend pas à bras le corps, on n'a pas cette lucidité nécessaire pour entreprendre les actions qui s'imposent, tout simplement.
Ouais. Alors qu'à l'inverse, vraiment, c'est incroyable, ça ressort vraiment très bien de votre livre, à quel point la fin de l'exploitation animale réglerait un gros paquet de problèmes qu'on a dans le monde.
C'est ça qui est frustrant, c'est que pour une consommation absolument dispensable, qui génère une cruauté sans nom, qui génère des dégâts écologiques majeurs...
Oui, qui est au carrefour de à peu près toutes les crises écologiques en plus.
Et social, on l'a
et
vu,
social,
et
vrai.
Économique, parce qu'il faut rappeler que l'élevage, par exemple, est sous perfusion de fonds publics.
Oui.
Et il est structurellement déficitaire. C'est la profession où il y a le plus de suicides. Enfin, voilà, c'est une catastrophe globale.
Oui, même dans les débats récents sur les conditions des agriculteurs et agricultrices qui sont extrêmement difficiles, qui sont précaires, qui se suicident, qui vont pas bien. Et bah, pareil, la possibilité de la fin, d'aller vers la fin de l'élevage, d'aller vers de reconversions n'a presque pas du tout été évoquée. Ça fait pas partie de l'horizon des possibles.
Absolument. Et c'est extrêmement frustrant pour tous ceux qui se battent sur ces enjeux-là, parce que on a vraiment le sentiment d'avoir une sorte de plafond de verre qu'on n'arrive pas à percer et des forces politiques qui campent sur des visions passéistes et sur la défense d'intérêts catégoriels on va dire délétères pour notre avenir collectif. Donc et on l'a vu à l'extrême pendant cette dernière séquence où le gouvernement a cédé à tout les demandes des éleveurs et à encourager la hausse du cheptel, les installations les plus intensives qui soient, la diabolisation des substituts carnés. Enfin, en gros, tout ce qu'il fallait ne plus faire, ils l'ont encouragé. Voilà, donc c'est vraiment désespérant, mais il faut pas lâcher l'affaire non plus.
Et c'est intéressant parce que vous analysez aussi un peu le côté idéologique de l'affaire, de qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un développement de cette fable des petits élevages et de la pêche artisanale. Vous donnez en fait des hypothèses d'explication sur les raisons de ce gigantesque point aveugle, et vous parlez dans le titre d'un chapitre de la pensée magique du bon petit élevage paysan et de la pêche artisanale durable.
Oui, mais je crois que ça, il y a une très grosse hypocrisie là-dessus, mais ça renvoie aussi aux incohérences individuelles. Combien d'écolos sont aujourd'hui végétariens ou véganes? Vraiment extrêmement peu, y compris chez les leaders politiques de ces formations, y compris chez les influenceurs. À chaque fois que j'interroge des personnalités médiatiques qui sont censées défendre la cause environnementale, extrêmement peu d'entre eux ont fait le pas de se passer de produits carnés. Ils sont vraiment la portion congrue, même chez ceux qui sont les plus emblématiques.
Je vais pas les citer. Et c'est ce qui fait, selon vous, que tout le monde s'accroche à
cette fable. Je pense qu'il y a une difficulté, effectivement,
à cette fable.
Voilà, on s'accroche à cette fable, et aussi on a du mal à défendre quelque chose sur lequel on se sent soi-même pas aligné. Je crois qu'il y a aussi, c'est du ressort individuel, de la cohérence, de l'alignement, et du fait que bah il y a une ambiguïté individuelle qui est un frein puissant à pouvoir revendiquer des choses clairement, honnêtement et avec efficacité.
Ouais. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment important, vous parlez autant de l'élevage que de la pêche, et c'est vraiment important de rappeler que c'est jamais que l'élevage, c'est aussi les poissons, les animaux aquatiques. Et ça, c'est pareil, il y a une idée de la pêche artisanale, de la petite pêche, alors que vous dites que ça représente la moitié des poissons pêchés le sont par la pêche artisanale, donc c'est tout aussi gigantesque.
Voilà, alors pour être précis, en gros, il y a beaucoup de chiffres aussi qui circulent, c'est pas toujours très simple d'y voir très clair. Moi, j'ai retenu des chiffres de la FAO qui montraient que, en gros, on a 3/3. Pour l'alimentation humaine, il y a 2/3 des poissons qui sont pêchés. Et parmi ces 2/3, la moitié, c'est la pêche artisanale. C'est-à-dire qu'en termes de tonnage, j'aime pas de parler de cette façon évidemment, d'individus sentients, mais c'est la façon dont ils calculent les choses. Donc, en termes de tonnage, 30 millions de prises de poissons sont faites par ce qui est qualifié de pêche artisanale, et 30 millions sont faites par la pêche industrielle pour la consommation humaine.
Soit l'équivalent. Et le troisième tiers,
c'est là où c'est hallucinant. Alors, c'est l'industriel, qui effectivement capture ce troisième tiers. Et ça, c'est pour nourrir les animaux d'élevage.
C'est ça. Oui. Et notamment les élevages de saumon, par exemple.
L'aquaculture, oui. Évidemment, beaucoup, mais également les porcs, également, la volaille.
Oui, c'est des farines animales, en fait.
Des farines animales pour le bétail. Ce qui faisait dire à Paul Watson, peut-être de façon un peu excessive, mais je trouvais l'image assez métaphorique et assez forte, était de dire, le porc est devenu l'un des principaux prédateurs marins.
Oui, donc même un tiers, ça reste gigantesque.
Ça reste gigantesque. On parle là de milliers de milliards de poissons.
Et pour revenir à la question des vaches et à quel point le pâturage n'est pas du tout quelque chose d'écologique, c'est pas une solution miracle vers laquelle il faut souhaiter aller. C'est vraiment paradoxal parce que justement l'image des pâturages, des vaches dans les paysages a une place hyper centrale dans l'imaginaire écolo, dans cet imaginaire du petit élevage bio tout beau.
C'est vrai.
On a du mal à sortir de ça. On voit les vaches, c'est... elles sont belles. J'ai un ami qui m'avait dit avec qui on est aligné sur à peu près toutes nos valeurs sauf la question du spécisme. Et oui.
Dommage.
Bah oui, dommage, il manque un truc. Et il me dit vraiment, moi, dans mon utopie d'un monde écologiste qui dépasse les dominations, il y a de l'élevage. Pour moi, ça doit faire partie. Le monde paysan, je le vois pas autrement.
Et oui, c'est cette fable de l'harmonie de l'homme avec la nature et les bêtes dans une agriculture qui serait responsable. Voilà, elle perdure parce qu'elle est très très solidement ancrée. Elle est presque identitaire en France,
ouais.
Évidemment.
Oui, vous parlez de l'amour des paysages aussi. Ça fait
voilà,
partie des
alors
choses
y a,
que les
voilà,
gens
ce
aiment
mythe
voir.
De l'entretien des paysages. Moi, ouais. Ce que je vois quand je me balade dans une campagne où il y a de l'élevage, c'est des silos, l'ensilage avec, on va dire, du plastique partout. C'est des silos à grains. Accolés à des bâtiments dans lesquels sont emprisonnées des poules, c'est des tas de fumier qui puent, c'est aussi ça, c'est des barbelés par des milliers de kilomètres qui vont obstruer et fragmenter les paysages. Moi, je vois ça aussi. Voilà. Mais on a mythifié l'élevage paysan, les bocages, alors que ça n'a rien de naturel. C'est une construction anthropique destinée à une industrie, à une filière qui doit produire des protéines. Donc, y a tout un tas de confusion sur ce sujet-là, mais c'est effectivement ce qu'on voit de plus acceptable de l'élevage. Tout ce qui est le plus cruel, est enfermé dans des bâtiments où on n'a pas le droit d'aller, où prise de vue est interdite. Heureusement, L214 fait un magnifique travail là-dessus. Mais ce que voient les gens, en règle générale, bah, c'est des vaches qui ont l'air assez paisibles dans les prés et dont ils ne mesurent pas à quel point...
C'est pas du tout représentatif.
Ce n'est absolument pas représentatif
de l'élevage.
Rappelons-nous que les vaches, c'est 0,5% des animaux abattus en France chaque année. C'est rien du tout. C'est 0,5% des individus abattus.
Qu'est-ce qui est 0,5%?
Les vaches, les bovins.
Ah oui, oui, c'est ça.
Oui, en termes d'individus.
C'est les seuls animaux qu'on voit dehors, mais en fait, c'est les animaux les plus rares.
Oui, c'est totalement marginal, mais c'est l'image dominante.
Et c'est ce qui fait qu'après, on a dans cet imaginaire l'équivalence monde paysan égale animaux exploités. Il faut qu'on ait des animaux dans la ferme, sinon on n'a pas un beau monde paysan souhaitable.
Oui, bah alors ça aussi, c'est tous les livres d'enfants où ça se passe bien à la ferme, le chien qui aboie, le canard qui est sympa, la vache qui vient dire bonjour. Enfin voilà, c'est tout cet imaginaire qui est construit depuis la plus tendre enfance et qui participe à construire
ce mythe
d'un bien-être en fait. Alors effectivement, dans une ferme de cette nature, la vache est sans doute mieux traitée que dans une ferme usine.
Oui,
évidemment.
Bien sûr.
Néanmoins, sa destinée est la même. Elle va passer dans un abattoir qui lui tranchera la gorge et elle sera dépecée en barquette. Donc c'est effectivement pas souhaitable et ça n'a rien de respectueux de le faire de cette façon-là.
Oui, vous vous en prenez aussi à ces mythes de... Et c'est un peu les termes marketing, les mots-clés qu'on retrouve un peu partout pour justifier le petit élevage. Alors vous vous parlez des pratiques d'élevage et d'abattage. Alors respectueuses, responsables, durables, ça c'est pareil, c'est tous les mots-clés qu'on nous sort pour légitimer en fait. Relégitimer et défendre l'institution de l'élevage et de la pêche en général, en nous laissant miroiter l'idée que ça peut être, qu'il peut y en avoir une forme acceptable.
Il y a eu un énorme travail de lobbying, y compris dans les écoles, de la part de la filière viande, qui a imposé ces termes-là jusqu'à se réapproprier celui du flexitarisme.
Oui.
Hein, voilà. Donc aujourd'hui, le fameux manger moins mais mieux, à mes oreilles insupportables, tant il charrie d'hypocrisie, mais qui sert
mais
de bannière
et de bonne conscience. Mais
donc
de se revendiquer plein d'associations écologistes.
Donc tout le monde,
Greenpeace compris.
Le réseau Action Climat, qui débattait hier sur ce sujet-là, sa conclusion, mangez moins mais mieux de viande. Dont on sait pertinemment que ça ne fonctionne pas.
Qui est exactement le même discours que les industries.
Ça veut dire maintenir le status quo, ne changez rien. Quoi. Le statu quo, ça ne changeait rien.
Bon, il faut dire qu'ils prônent pour une vraie réduction réelle, mais on peut interroger le fait qu'ils reprennent finalement l'élément de langage.
Exactement, ils reprennent les éléments de langage de la filière viande alors qu'ils plaident pour une décroissance de cette consommation.
C'est ça.
Et on voit très concrètement dans les faits que le manger moins mais mieux qu'on nous rabâche depuis des années n'a aucun effet sur la consommation.
Oui, dans la tête des gens, du coup, ça veut dire « Ah bah, on peut continuer comme avant ».
La consommation de viande a augmenté cette année de 0,5% et elle se maintient depuis maintenant une cinquantaine d'années à des niveaux très élevés. Un Français mange deux fois plus de viande qu'un humain moyen au niveau mondial.
Du coup, si je comprends bien votre intention avec ce livre, c'est aussi de montrer que ce qui fait que les écolos, en particulier les forces progressistes plus généralement, ne parlent pas suffisamment de la transition agricole et alimentaire qui est nécessaire, c'est le spécisme en fait. C'est que tout le monde est spéciste et donc tout le monde, comme les gens ne voient pas le problème avec l'exploitation animale en général et cherchent à en défendre certaines formes quoi qu'il arrive, bah ça fait qu'on n'adresse pas bien le problème.
Bah, effectivement, c'est une belle illustration du spécisme. On a une agriculture qui reste un système de domination massif d'êtres sentients et qui n'a pas l'intention de se remettre en question. Et c'est ce qu'il faut combattre.
Parce que par contraste, si on s'imagine, si tous les écolos étaient antispécistes, on n'aurait pas ces problèmes, en fait.
C'est la conclusion de mon bouquin. Je veux pas spoiler, mais je parle, comme l'avait fait Yves Bornardel, je crois, dans un article d'écologie sentientiste. C'est ce pourquoi il faudrait plaider. Aujourd'hui, pour être absolument cohérent avec les dernières connaissances scientifiques disponibles, pour être congruent avec l'empathie qu'on prétend avoir avec le vivant, hein, c'est un terme qui est souvent convoqué par les écolos,
Évidemment,
il faut arrêter cette consommation. D'autant plus que c'est tout à fait viable. On peut très bien se nourrir autrement qu'en tuant des êtres sentients. Donc il faudrait aller vers la convergence des enjeux écolos et des enjeux antispécistes en faveur d'une écologie sentientiste, quel que soit le nom qu'on lui donne. Mais pour moi, ce sont deux combats qui doivent absolument converger, qui partagent beaucoup de choses en commun. Mais l'un d'entre eux n'a juste pas fait le pas vers plus de cohérence et plus d'honnêteté, tout simplement.
Mmh, oui, vous dites, en fait, c'est une énorme ligne de fracture. On nous oppose souvent que, ah, mais c'est trop radical, les gens ne sont pas prêts, vous êtes trop confrontationnel. En fait, vous assumez ça de dire, eh oui, c'est une ligne de fracture. Vous écrivez, l'option retenue par les individus dans leur rapport à la viande et plus globalement à l'exploitation animale ouvre ainsi une profonde ligne de fracture dans la société. Mais en fait, on n'a pas le choix que de se positionner par rapport à cette question-là. Est-ce qu'on est pour l'exploitation des individus sentients ou est-ce qu'on est contre ? C'est formulé d'ailleurs dans votre quatrième de couverture avec une formule un peu choc. Être écolo ou manger des animaux, il faut choisir.
Oui, absolument. Ça reprend le slogan bord au conduire, il faut choisir. Hein. Il y a un petit clin d'œil à tout ça. Mm. Mais effectivement, pour moi, il y a pas d'autre choix. Ça peut paraître manichéen. Non, c'est juste cohérent.
Et outre la supposée trop forte radicalité de l'antispécisme, de la revendication d'abolition de l'exploitation animale, une autre chose qu'on nous oppose, c'est que la solution vers le véganisme, c'est quelque chose d'individuel, c'est un peu un petit geste individuel qu'on pourrait faire, c'est quelque chose de dépolitisant qui n'adresse pas les problèmes structurels. Et ça, vous aussi, vous vous appelez à sortir de ce faux dilemme entre geste individuel et geste collectif.
Plus que ça, je dis et j'écris que refuser d'ingérer des animaux, c'est un geste politique. C'est une revendication politique qui s'exprime 3 fois par jour, ouais. Le matin au petit-déj, le midi au déj et le soir au dîner, et qui provoque de la discussion. C'est éminemment politique. Et je crois que c'est une des meilleures façons, aujourd'hui, d'engager la politisation, je dirais, du sujet. On peut théoriser là-dessus. Si, à côté de ça, on va manger un steak derrière, on annule complètement, l'effet, des idées qu'on peut prôner. Au contraire, si on est dans l'exemplarité et dans la cohérence au quotidien de ce refus-là, ben on exprime l'opposition à un système de domination qu'on réprouve et on enclenche la discussion pour essayer de comprendre pourquoi autrui n'est pas sur ce chemin-là. Et je pense que c'est pas un petit geste comme faire pipi sous la douche. Hein. C'est ouais. Alors là, quelque chose de beaucoup plus puissant.
Et ouais, on le voit d'ailleurs, de réduire ça chacun, à un petit geste colibri.
Chacun d'entre nous, et chacun se reconnaîtra puisque beaucoup d'antispécistes écoutent comme un poisson dans l'eau, c'est quasiment quotidien et à chaque repas qu'on partage avec des amis, que ce sujet revient sur la table quand ils savent qu'on est dans cette dynamique. Parce que ça les travaille, parce que globalement, il y a un sujet majeur qu'ils le ressentent consciemment ou inconsciemment et qu'ils en sont mal à l'aise. Et je crois que justement, le fait de le revendiquer par l'exemple, par l'action au quotidien est quelque chose d'extrêmement important. Quoi.
Oui, et puis en plus, c'est d'autant plus malhonnête que vraiment, il n'y a pas plus structurel comme réflexion, je trouve, que l'antispécisme qui appelle à l'abolition d'institutions, d'exploitation, d'oppression. On a toujours des revendications à l'échelle collective et politique qui viennent ensuite se mettre en pratique par cohérence, en fait, avec le véganisme. Mais oui, vous le dites, le véganisme, c'est surtout et avant tout une lutte collective.
Absolument.
Et on est au clair sur ça. C'est juste, on nous prête des intentions ou des interprétations du véganisme, des politisantes individuelles.
Voilà, moi, l'idée selon laquelle ça serait un choix individuel qu'on n'a pas à dicter ce que chacun doit manger, c'est totalement stupide. Tout ce qu'on fait a des impacts sur les autres. Mmh. Je veux dire, le fait qu'on se déplace en avion ou pas, le fait qu'on mange carné ou pas, ça a des conséquences sur notre avenir collectif. D'autant plus que ces impacts sont majeurs. Oui. Cet argument est totalement inepte et je crois que c'est facile à le déconstruire. Hein. De toute façon, oui. C'est facile à l'opposer. Mais il est encore majoritaire.
C'est de la méconnaissance, en fait.
Voilà, absolument.
Mais pour votre part, vous voulez vraiment tenir les deux bouts. Vous défendez à la fois une écologie radicale et un antispécisme tout aussi radical. Mais du coup, concrètement, on fait quoi en tant qu'antispéciste quand on entend des figures écologistes tenir des discours complètement spécistes? À quel point est-ce que c'est important d'aller les secouer un peu, en fait, ces écologistes spécistes, soit un peu gentiment, soit en étant plus dans la confrontation et dans la dénonciation? Où est-ce qu'on met le curseur dans l'interpellation de la sphère écologiste et progressiste sur ces questions?
Je pense qu'il faut les mettre face à leurs contradictions, il faut les interpeller sur cette incohérence, il faut leur demander de justifier ce positionnement, faut être dans une controverse, ne pas avoir peur du dissensus. Effectivement, moi, c'est un peu ma marque de fabrique. C'est souvent comme ça qu'on me reconnaît par ce ton un peu mordant, qui me vaut souvent des critiques très fortes, notamment récemment parce que j'ai osé critiquer Hugo Clément qui soutenait l'élevage paysan une fois de plus, et j'ai démontré en quelques points que sa argumentation était juste faible, ne tenait pas la route. Beaucoup de gens ont d'ailleurs m'ont soutenu là-dessus, mais encore davantage m'ont critiqué en critiquant le fait que je puisse diviser des gens qui tiraient dans le même sens.
Oui, c'est ça. Moi-même, je sais pas où mettre le curseur parce qu'il y a aussi cet enjeu de bon, mais globalement, on se bat quand même pour un peu le même monde, même s'il y a des fortes divergences si les gens se battent pour un monde encore spéciste. Mais globalement, on essaye d'aller dans la même direction. On a une partie de nos objectifs en commun. On est dans les mêmes camps. On est globalement alliés. Et pourtant, c'est difficile parce qu'il faut parfois savoir s'affronter quand les gens ne sont pas au point sur une des oppressions qui est complètement invisibilisée. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait ?
Le débat d'idées, pardon, il peut être respectueux. On n'est pas là sur l'invective sur une personne. On n'est pas en train de juger la personne en tant que telle. En revanche, on peut remettre en cause fondamentalement les idées qu'il développe.
Les
discours, les idées.
Quand les discours sont spécistes, on peut le dénoncer,
Je crois qu'aujourd'hui, c'est notre devoir, entre guillemets, d'antispéciste, de repérer toutes ces incohérences et tous ces arguments fallacieux pour en débattre et mettre justement ceux qui les énoncent face à leurs contradictions, parce que c'est la seule façon d'avancer. Je le fais systématiquement avec des leaders politiques lorsqu'on a l'occasion d'échanger ou de manger ensemble, et quand je vois, je sais pas si je peux le citer là, Yannick Jadot est venu à La Réunion et je l'ai emmené voir des dauphins, et juste après on déjeune ensemble et il prend un steak de thon. Je veux dire, alors même qu'on parlait des captures accidentelles qui ravagent les populations de dauphins dans l'Atlantique comme dans l'océan Indien, la pêche étant le principal facteur d'effondrement de ces populations, une fois qu'il a considéré cette idée-là qu'il connaît par cœur, ben, la première chose qu'il fait au resto, c'est de commander un steak de thon. Enfin, c'est un truc de ouf. Et c'est vrai aussi dans le milieu, on va dire, de la conservation en règle générale. En biologie marine, la plupart des scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là mangent du poisson, mangent des protéines carnées, ne font pas le lien entre ce qu'il y a dans leur assiette et leurs travaux scientifiques. C'est quelque chose qui m'étonne systématiquement, et des lignes que j'essaye à titre individuel de faire bouger dans mon milieu, mais c'est vraiment très laborieux.
Ouais. Bon, alors là, on trace un tableau vraiment très très noir de la situation, et je voudrais pas laisser penser que c'est de façon uniforme tous les écolos ou toutes les sphères progressistes qui sont incohérents ou qui sont spécistes. Bon, il y a quelques évolutions récentes intéressantes, et vous en notez une partie. Vous parlez notamment d'un tournant éditorial à Reporter, et j'ai trouvé ça intéressant parce que je l'ai remarqué aussi que Reporter désormais a une ligne plutôt clivée entre parfois des sujets avec un cadrage spéciste et puis certains sujets sur le véganisme, sur des formes d'alternatives antispécistes, et les deux semblent cohabiter maintenant à Reporter.
Oui, c'est vraiment à saluer, c'est pour ça que j'en ai fait mention. C'est vrai aussi dans d'autres support. Je pense à Monsieur Mondialisation qui développe beaucoup ce type de contenu, et ça prend.
Ouais.
Et ça marche bien. Mais les formations politiques aussi ont évolué. La commission, on l'a cité tout à l'heure, Conditions Animales chez ELV, comporte beaucoup de jeunes femmes antispécistes, souvent des femmes. Chez LFI, c'est pareil. Chez LFI, il y a vraiment une réflexion très approfondie sur la question qui irrigue la réflexion politique, avec des résistances, évidemment, mais ce n'est pas absent. Et ça prend d'ailleurs de l'ampleur et un peu plus de force au fur et à mesure que le temps passe, heureusement. Donc il y a au sein de toutes ces instances, que ce soit les médias, les partis politiques, la société en général, des individus.
Les figures, il y a des figures d'écologie qui émergent, qui parlent de spécisme. Je pense à Fatima Wassak, à Malcolm Ferdinand, à Antoine Dubiot. Elles se sont emparées de la question du spécisme à l'étranger. On a parlé de Greta Thunberg. Il y a quelques figures comme ça, elles sont rares encore.
Elles sont rares, elles sont moins visibles que d'autres, mais elles existent, elles ont un discours puissant, elles ont un discours implacable, et effectivement, ça aide le combat. Mais il faut dire on est sur un combat relativement récent, donc évidemment, il faut un peu de temps pour que, le corpus idéologique se fasse, pour qu'il se diffuse, pour qu'il soit incarné aussi. On a aussi besoin de personnes qui incarnent ce mouvement de façon positive. Et c'est le cas avec les personnes que tu as citées, même si elles sont combatives pour certaines d'entre elles et parfois sans concession. Tant mieux. Il faut être assez intransigeant aussi quand on défend ces idées-là. Mais elles le font avec talent, avec des arguments. Et je crois que c'est ce que je me suis aussi employé à faire. On ne sera jamais aussi puissant que si on peut se baser sur des éléments factuels, indiscutables, objectifs, sourcés, vérifiés. Et c'est une des raisons pour laquelle j'apprécie notamment les travaux de Romain Espinoza, de Nicolas Trèche, qui systématiquement ramènent des chiffres, des faits, des études. Et c'est ça qui alimente le débat et parfois coule le bec de nos, de nos opposants, de nos adversaires, on va dire, idéologiques, pour qu'on ne nous reproche pas nous-mêmes d'être dans une forme d'idéologie. Voilà, c'est souvent quelque chose... d'idéologie au sens dogmatique.
Ah, mais on fait de l'idéologie.
Et on le revendique.
Mais la nôtre est mieux justifiée.
Parfois d'être totalement dogmatique ou ne pas tenir compte du réel. Non, c'est une idéologie qui se fonde sur les dernières connaissances disponibles.
Oui, voilà. Sur des faits, des recherches, des arguments bien précis.
Alors qu'on nous l'oppose souvent.
Ouais.
Voilà. Et c'est plutôt, les croyances sont plutôt de l'autre côté. C'est ce que j'ai voulu faire aussi dans une grosse partie du bouquin, de débunker toutes ces croyances. Ces croyances, ces fantasmes, ces illusions, ces représentations qui irriguent encore majoritairement l'opinion et les décideurs, mais qui n'ont plus aucun fondement.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même bien de dire que ça bouge dans certains endroits. Moi, je le sens, hein, il y a des auditeuristes du podcast, la grande majorité ont une sensibilité écologiste. Certains, certaines sont engagées dans des collectifs écolos et s'intéressent à la question du spécisme.
99...
Alors, sont aussi antispécistes.
Voilà,
pour beaucoup.
Ma perception des choses, c'est que 99% des antispécistes sont écolos. Mais l'inverse n'est pas vrai. Mmh. Voilà.
Ouais, il y a quelques collectifs, je pense à Désobéissance Écolo Paris, alors maintenant qui s'est renommé Avis de Tempête, et ils ont un super podcast sur la question. Et le spécisme n'est pas un point aveugle. Ils s'en emparent, ils, elles font des épisodes sur la question.
Ça reste encore un peu marginal.
C'est très marginal, ouais.
Mais
ça existe.
Ça existe et ça grandira indiscutablement, c'est le sens de l'histoire.
Vous parliez d'idéologie, pour moi c'est pas un gros mot, hein, l'idéologie.
Ah, moi non plus.
Et j'aimerais parler un tout petit peu avec vous de l'alternative entre deux concepts que vous employez, vivant et sentient. Alors vous avez souvent parlé du vivant dans vos écrits, dans vos prises de parole publiques, et vous faites d'ailleurs partie d'un parti Révolution écologique pour le vivant, qui est un parti antispéciste, donc je l'ai dit, qui est associé à la France insoumise. Et pourtant, dans votre conclusion de ce livre, Comment l'humanité se viande, vous tracez les contours d'un projet écologiste que vous appelez une écologie sentientiste. Alors, est-ce que vous utilisez les deux termes de façon vraiment interchangeable, vivant et sentient ?
Pour ceux qui écoutent ce podcast, savent qu'il y a une différence sémantique entre ce que recouvre la notion de vivant et la notion de sentience.
C'est-à-dire que vivant, c'est plus large.
Voilà,
ça
vivant,
inclut
c'est
les
plus
plantes,
large. Voilà, ça inclut les plantes. C'est plutôt une vision globalisante des écosystèmes, là où le sentientisme va s'intéresser prioritairement aux individus et à leur capacité à souffrir, à ressentir des émotions positives, négatives, à être conscient d'eux-mêmes, à avoir des stratégies qui les mènent à privilégier leur vie, enfin des choses comme ça, évidemment. La notion de sentience est encore peu appréhendée, peu comprise dans le grand public, et c'est vrai que celle qui est beaucoup plus développée aujourd'hui, c'est vivant, donc on l'emploie peut-être plus facilement pour signifier l'attention qu'on peut porter justement aux animaux non humains,
oui.
Même si on en connaît aussi les limites.
Ma question, elle n'est pas innocente, parce que
oui,
moi, je
voilà.
remarque qu'une grosse partie des usages de ce concept du vivant et les figures qui ont porté, finalement, les figures de pensée qui ont porté ce concept, je pense à Baptiste Morisot, l'ont fait pour la grande majorité dans un usage spéciste
oui.
du terme et pour légitimer la consommation d'animaux et leur exploitation.
Absolument, et c'est regrettable. Mais ça oui. s'inscrit dans la même incohérence qu'on a pointée jusqu'ici. Ces grands philosophes du vivant, Vinciane Després, Descola et Morisot, qui est très souvent convoqué par les écologistes, effectivement s'opposent à l'antispécisme et ont une vision assez, on va dire, je trouve, datée de la question.
Suprémaciste,
même. Invoquant des lois naturelles, toujours cette idée de nature,
ouais.
qui légitime l'ingestion d'autres vivant dans une forme de revendication, de communion, de connexion avec cette nature mythifiée, qui sont autant d'obstacles à la prise de conscience de leur individualité, de leur capacité à souffrir, de l'injustice fondamentale que ça représente. Donc effectivement, il faut combattre le vivant dans cette acception-là.
Oui, donc vous avez conscience des risques quand vous employez le concept de vivant.
Complètement, mais aujourd'hui, employer le terme de sentience, si je le fais régulièrement dans le bouquin, publiquement, c'est encore très mal compris. Et c'est un concept qui n'a pas de portée opérationnelle immédiate. Donc je pense qu'il faut, enfin, le vivant s'est imposé, et effectivement, parfois même, on le reprend sans y penser véritablement,
mm-hmm.
mais il faut déployer derrière une pensée qui soit beaucoup plus précise et qui, justement, rappelle que derrière vivant, il y a des différences entre un caillou un animal non humain, et que cette notion de sentience est absolument centrale. D'où l'appel à une écologie sentientiste.
Alors c'est quoi du coup ? Parce que moi ça m'a vraiment beaucoup intéressé dans votre conclusion que vous traciez, que vous souhaitiez aller dans cette direction. Une écologie sentientiste, un projet d'écologie sentientiste, concrètement ça donne quoi en fait ?
C'est un projet antispéciste où l'écologie reconnaît le droit des animaux à vivre leur vie et de la considération pour leurs besoins individuels, vitaux, se passe de leur exploitation, sorte de ce système de domination et tente autant que possible dans une société à inventer, à tracer des formes de cohabitation apaisées entre humains et non-humains, qui peuvent prendre des formes multiples, mais qui s'émancipent, je vais dire, de cette oppression systématique, de cette instrumentalisation, du rôle fonctionnel que chacun devrait avoir et censé avoir dans des chaînes trophiques ou ailleurs, essayer d'inventer un nouveau mode de cohabitation, un peu celui que décrit Zoopolis. Voilà, tout simplement, une écologie sentientiste mène vers un projet de réensauvagement, vers un projet, je dirais, de cohabitation, où l'exploitation soit derrière nous.
Est-ce que ça veut dire aussi que c'est un projet qui est repensé non plus juste pour les humains, quand on se demande pour qui on se bat, quel est notre objectif, mais aussi pour tous les êtres sentients, en fait.
Absolument.
De pas les considérer comme les rouages de la machine ou comme des facteurs de crise écologique, mais en fait, comme des victimes au même titre que nous, comme des personnes qui peuvent subir des dommages des crises écologistes. Et donc, pour qui il faut aussi, qu'il faut prendre en compte dans la réflexion écolo pour savoir vers quel monde on veut aller.
Absolument, c'est très bien exprimé, je pourrais que paraphraser ce que tu viens de dire. L'idée c'est ça, c'est de considérer ces êtres vivants pour ce qu'ils sont, considérer leur valeur intrinsèque, leur droit à vivre leur vie paisiblement, travailler autant que faire se peut à satisfaire leurs intérêts, sans nuire aux nôtres. Je pense que c'est des choses qui sont tout à fait possibles à envisager. Et évidemment, ce n'est pas envisageable avec l'élevage tel qu'il est aujourd'hui déployé à l'échelle planétaire, bien évident. Donc c'est un projet certes utopique, mais qui trace pour moi un avenir désirable, qui est extrêmement stimulant, qui est extrêmement enthousiasmant et qui est faisable en fait. Et qui est faisable, puisque il y a des pistes de reconversion, il y a des alternatives à l'alimentation carnée, il y a des compétences, des intelligences, des volontés, de l'espace encore disponible. On pourrait tracer les lignes de ce nouveau projet de société assez facilement, ou en tout cas on pourrait y travailler collectivement, sans que ça nous porte tort. C'est ça qui est important à dire. C'est-à-dire, on pourrait vivre bien plus heureux sans exploiter à cette échelle des animaux sentients, sans les instrumentaliser, sans les oppresser, sans leur causer du tort. Et ça nous et on y aurait notre intérêt, vu qu'en faisant ça, on garantirait les conditions d'habilité d'une planète pour tous.
Alors je dois vous avouer, Jean-Marc Gancy, par rapport à cette conclusion très explicitement et radicalement sentientiste, antispéciste, moi j'ai noté comme un écart entre cette conclusion-là, hyper claire sur le plan idéologique, et certaines formulations au cœur du livre, au fil des chapitres, qui moi m'ont paru, pardon de vous le dire, hyper spéciste. Quand vous écrivez « La pêche est la première cause de la destruction des océans », sans parler des poissons, quand vous écrivez dans ces conditions « La biomasse des poissons diminue partout », quand vous parlez parfois des stocks, quand vous rappelez pas qu'un des avantages à réduire ou abolir la pêche, bah, c'est surtout et avant tout les individus sentients qui étaient exploités, qui en profiteront, vous le faites pas au fil du bouquin, vous le faites à la fin, en fait.
Ouais, parce qu'en fait, j'ai explicitement pris le parti d'avoir une argumentation centrée sur l'impact écologique. J'ai, dès le début de l'ouvrage, bien sûr cité la question éthique qui, à mes yeux, est primordiale, mais c'est pas l'objet du bouquin. Et dès lors que j'entrais dans une argumentation essentiellement centrée sur des enjeux écologiques, j'ai pu m'approprier le vocabulaire, on va dire, qui est usité en matière de d'écologie, dès lors qu'on parle d'écosystème, de fonctionnalité écologique, de stock de ressources. Je prends garde à très régulièrement, mais j'ai vu que je ne l'avais pas tout le temps fait, mettre des guillemets.
J'ai une citation, vous parlez de sécuriser les stocks de carbone marin, il n'y a pas de guillemets, ça m'a un peu choqué.
Là, les stocks de carbone, à la limite, ça c'est pas trop grave. Mais quand on parle de stocks de poissons, ça me choque aussi, effectivement, et généralement j'ai mis des guillemets. Mais ça, certains termes ont pu passer à la trappe, en tout cas certaines mentions ont pu peut-être passer à la trappe et donner ce sentiment d'un discours qui reste dans sa sémantique parfois spéciste.
En tout cas, vous êtes d'accord que une écologie sentientiste, c'est aussi essayer de parler autant que possible quand on parle des poissons, d'en parler en tant qu'individus sentients qui ont leur propre vie et qui n'ont pas envie d'être exploités.
Absolument, et je plaide coupable si je ne l'ai pas systématiquement fait. Je précise que Yves Bonnardel a relu mon ouvrage très gentiment et a pointé aussi parfois ses mentions, et je les ai corrigées. Je veille à parler d'oiseaux plutôt que de volailles, de cochons plutôt que de porcs, de parler des poissons au pluriel et pas de poissons de façon générique. Mais bon, voilà, à un moment donné, on va s'adresser aussi à une cible pour laquelle ces notions sont un peu abscons et qui ne faciliteront pas forcément leur appropriation. Donc j'assume éventuellement ces petits écarts qui je ne pense pas nuisent à l'intention générale.
Non, en tout cas, la conclusion est très très claire et intransigeante et je l'ai trouvé très bien et c'est rare, je crois que c'est peut-être la première fois que dans un livre qui peut avoir de l'impact et qui peut parler et s'adresser à la sphère écologiste, on parle d'écologie sentientiste et j'espère que ce sera l'occasion de développer un vrai projet positif de à quoi ça, qu'est-ce que ça donne concrètement un tel projet, parce qu'on en a besoin, on manque peut-être de propositions concrètes envers les écologistes, de leur dire, bah voilà, ça donne ça, un projet qui est aussi antispéciste et qui va dans le sens d'une écologie bien pensée.
C'est exactement l'intention de cet ouvrage, c'est de, on va dire, mettre une petite bombinette là dans le débat et effectivement provoquer une réaction des milieux écolos. J'espère qu'ils s'en saisiront, j'espère que ça provoquera des débats, des controverses, il y en aura. En tout cas, qu'on aura planté une graine, comme plein d'autres le font. Il me semblait justement qu'il manquait un recueil, un ouvrage qui traite spécifiquement de l'enjeu écologiste et qui rapproche cet enjeu de l'enjeu antispéciste. Pour moi, il est absolument indispensable de ne pas les opposer, mais de les faire converger au maximum. Et j'espère avoir apporté ma pierre à l'édifice avec ce livre.
Vous le savez sûrement, Jean-Marc Ancy, il y a un petit rituel de fin d'entretien dans Comme un poisson dans l'eau, c'est de vous demander trois recommandations.
Alors, pour l'occasion, je citerai trois ouvrages qui m'ont beaucoup marqué, qui ont contribué effectivement à l'ouvrage « Comment l'humanité se viande », parce que d'une façon ou d'une autre, ils sont en écho avec mon propos. Le premier, c'est un ouvrage pharaonique, une vraie bible de Bernard Lahir qui s'appelle « Les structures fondamentales des sociétés humaines », qui est absolument remarquable. Ce serait très compliqué de le résumer en quelques lignes, mais il montre effectivement à quel point les sociétés humaines et non humaines ont des similitudes. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, d'un point de vue biologique évidemment, mais d'un point de vue social, ce que ça génère aussi parfois dans la culture, et j'ai trouvé ça très fort. Le deuxième ouvrage que je citerai s'appelle « Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité » de Laurent Testeau. Là aussi, sous le prisme de l'histoire globale, Laurent Testeau aborde l'évolution d'Homo sapiens au fil des siècles avec une approche écolo et montre comment la transformation de la planète a conduit à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et évidemment, ça appuie la nécessité de sortir de ce système global de domination qui n'est pas récent et qui ne date pas simplement du capitalisme, mais qui ramène à des temps bien plus anciens, notamment l'extinction de la grande faune sauvage. C'est quelque chose qu'on ignore parfois, mais qui fait place à tout ce système d'exploitation qui suivra. Et le dernier ouvrage que j'ai trouvé aussi remarquable, c'est celui de Valérie Chansigo, une histoire de la domestication.
L'histoire de la domestication animale.
De la domestication animale, exact, qui montre à quel point cette entreprise systématique de sélection génétique n'a rien, je dirais, de naturel, mais fait appel à des manipulations qui conduisent à avoir générer des animaux à nos fins exclusives et ouais, non pas
et de façon violente
et cruelle, indépendamment de leurs propres intérêts à vivre leur vie, tout simplement. Et cette approche très scientifique, historique de la question éclaire justement sur l'injustice fondamentale de la domestication et de l'élevage.
Eh ben, j'appuie chaudement cette dernière recommandation, c'est le seul des trois, il me semble, que j'ai lu pour le moment, et je l'ai trouvé vraiment très très bien. Donc merci beaucoup pour ces trois recommandations, Jean-Marc Ancy, et un grand merci d'être passé dans Comme un poisson dans l'eau.
Merci beaucoup Victor, et bravo pour le travail effectué dans le podcast.
C'est la fin de cet épisode. Je sais qu'il y a plein d'écolos qui écoutent le podcast, alors s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord ou pas, ce que vous trouvez juste ou au contraire caricatural. Justement, l'idée, c'est qu'on puisse en parler. Et du coup, envoyez cet épisode à tous vos amis écolos, bien sûr. Je remercie les éditions Rue de l'Échiquier de nous avoir accueillis pour cet enregistrement. On se retrouve très vite, et en attendant, bisous.